C'est 23.
Patrick Lagacé en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant en moins de 60 minutes.
Docteur Horacio Arruda est au bout du fil. Le directeur national de la santé publique est avec nous. Docteur Arruda, bonjour.
Bonjour.
Écoutez, j'ai plusieurs questions là sur le AstraZeneca. Résumé pour les gens qui nous écoutent, là, ce qui s'est passé hier sur un site web du gouvernement, on disait il ne faut plus aller chercher la deuxième dose. Monsieur Dubé a corrigé le tir aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé?
Bon, il y a eu un mot qui a été mis dans le site web où on disait que il fallait les gens qui avaient reçu un AstraZeneca devaient avoir un vaccin ARN. Alors que c'était pas ça du tout le sens de la recommandation du CIC, et notre recommandation n'a pas changé. Je veux juste vous dire qu'au Québec, les vaccins qu'on donne, que ce soit AstraZeneca, que ce soit Pfizer ou Moderna, c'est des vaccins qui sont considérés sécuritaires, c'est des vaccins qui ont des efficacités quand on donne deux doses ou même une dose qui sont assez similaires. Donc, la recommandation, la chose la plus importante à retenir, là, c'est que si vous avez ce qui est important, c'est d'avoir deux doses. La chose la plus importante, c'est ça, d'avoir deux doses. Et ce que vous receviez un AstraZeneca avec un AstraZeneca, c'est efficace que vous receviez un ARN messager. Là, ce qui se passe, c'est que selon certaines études qu'on appelle de mesures d'anticorps, okay, on a remarqué que dans les calendriers mixtes, qu'on appelle, on a une sorte de vaccin en première dose, une sorte de vaccin en deuxième, il y aurait peut-être des anticorps qui seraient plus important. Mais ça ne veut pas dire que l'efficacité sur le terrain clinique, elle est supérieure. Et c'est pour ça que le CIC dit qu'il apparaît préférable, il apparaît, non pas dit devrait, que les personnes qui ont reçu une première dose puissent avoir un mélange, mais ce qui entraîne parfois plus de réactions secondaires. Moi, ce que je viens à vous dire...
Je vous arrête juste une seconde, Dr. Arruda, juste pour qu'on se comprenne bien. Une première dose d'AstraZeneca, bon, moi, ça m'a un petit peu affaibli, mais sans m'empêcher de travailler. Mais ce que j'entends, c'est que si la deuxième dose est d'un autre type de vaccin, là, ben on peut être sur le carreau. Là.
Oui, écoutez, il faut comprendre que les données, là, les études qu'on appelle de réactogénicité sur des calendriers mixtes ne sont pas encore toutes complétées. Les premières observations semblent dire, particulièrement quand les doses sont rapprochées, que si vous changez de vaccin, là, vous pouvez avoir plus de réactions secondaires, un peu plus fortes. Comme tel, comme de la fièvre, puis d'être obligé de rester au lit une journée ou deux.
Je comprends. Regardez, vous m'avez parlé du CIC, OK? Je vais, puis pour clarifier pour les gens, c'est le Comité d'immunisation du Québec, c'est bien ça?
Exactement. Okay. C'est notre comité qui nous conseille, qui nous fait des recommandations.
OK, et le CIC a dit, écoutez, première dose d'AstraZeneca, deuxième dose d'AstraZeneca, pas de problème. Là, juste avant d'entrer en onde, 15h59, Radio-Canada annonce que le Comité consultatif national de l'immunisation, ça c'est le fédéral, ne recommande plus l'utilisation du vaccin AstraZeneca en deuxième dose, à moins qu'un vaccin ARN messager soit inaccessible ou contre-indiqué. Comprenez-vous le monde d'être un peu mélangé?
Mais je comprends très bien, je le comprends très très bien, mais je crois que je revois l'avis parce que il vient juste de sortir. Ils doivent sûrement dire que c'est correct d'avoir deux AstraZeneca, là. C'est parce que là, ce qui se passe, c'est que c'est sur la base de ce signal-là qu'ils font leur recommandation. Là, nous, je vais vérifier avec les gens du CIC. La deuxième dose d'AstraZeneca demeure une option sécuritaire et valable. Puis, fait que dans le fond, nous, pour le moment, c'est ça. Les études, ce qu'on appelle d'efficacité sur le terrain, là, je parle pas seulement d'immunogénicité, là, semble démontrer là, que deux doses d'AstraZeneca, c'est tout aussi efficace. Mais si vous permettez, ce qu'on va permettre au Québec, ça, on l'a toujours dit, puis on ne changera pas, quelqu'un qui a reçu un AstraZeneca, qui voudrait changer, on va lui offrir. Je ne sais pas si vous comprenez. On vous obligera pas à avoir un AstraZeneca si vous n'en voulez pas.
Les gens peuvent faire le choix, c'est ce que vous me dites.
Oui. Puis, je connais plein de gens qui ne veulent pas changer de vaccin. Il faut aussi voir que quand on change de vaccin, je ne veux pas dire que ça ne sera pas reconnu, mais on ne sait pas jusqu'à quel point les autres pays vont reconnaître, par exemple, des calendriers mixtes. Je pense qu'ils vont le reconnaître à mesure que mais à ce stade-ci, on ne sait pas encore. Fait que moi, ce que je vous dis, c'est que l'important, c'est deux doses. Deux doses entre 8 et 12 semaines. Puis ça n'a pas besoin d'être 8, ça peut être 9, 10, 11, 12, parce qu'à 12 semaines, c'est encore meilleur. Puis on l'éloigne à ce moment-là aussi, moins de réactions potentielles. Mais si vous voulez avoir un mix, vous le faites. Si vous préférez garder le même, vous le gardez.
OK. Il y a quelqu'un qui me demande, quelqu'un qui est camionneur, qui va aux États-Unis, il me dit, j'ai reçu mes deux doses d'AstraZeneca. Est-ce que je serais mieux protégé qu'une troisième dose de, par exemple, du Pfizer ou du Moderna?
Actuellement, les données cliniques qu'on a ne le recommandent pas nécessairement. Si la chose évoluait, là, puis qu'on se rendrait compte qu'après deux AstraZeneca, après un certain temps, que l'immunité baisse, on changerait le protocole. Là. C'est comme la question de la troisième dose, etc. Mais actuellement, le monsieur, si c'est deux doses AstraZeneca, il est considéré protégé.
OK. Il y a l'autre question qui est souvent posée, c'est est-ce que d'avoir eu une dose d'AstraZeneca, est-ce que c'est suffisant? Votre conseil
non.
Là-dessus, c'est quoi?
C'est non. Il est très clair qu'actuellement, ça prend deux doses. Le seul groupe pour lequel il y a des éléments qui vont être regardés, c'est pour les 12-17 ans parce qu'ils ont un excellent système immunitaire. Mais véritablement, là, actuellement, c'est deux doses. C'est pour ça que je vous dis, là, moi, je préfère quelqu'un qui a deux doses d'AstraZeneca que quelqu'un qui a une seule dose de Pfizer. Parce que l'immunité reste pas. La deuxième dose, elle est très importante. Elle sert de stimulant de l'immunité pour maintenir l'immunité. Elle vient véritablement figer dans la mémoire de nos cellules l'antigène qu'on veut combattre.
OK. Les ratés du site Clic Santé, est-ce que ça vous inquiète?
Bien, je vais vous dire, bien honnêtement, c'est fatigant. C'est fatigant pour tout le monde. Même moi, à un moment donné, je voulais obtenir des choses et puis ça fonctionnait pas. Mais c'est le propre d'un système qu'on met en place, je vous dirais rapidement, mais qui veut aussi s'assurer de la sécurité. Et je vous dirais, là, puis il y a des situations où, à un moment donné, l'information qui a été saisie a été erronée ou elle n'est pas la bonne. Puis là, on vous donnera pas accès à l'information parce qu'on veut pas que, par exemple, le code de vaccination du docteur Arruda par erreur soit donné à Patrick Lagacé ou que celui de Patrick Lagacé soit donné par erreur à Horacio Arruda en termes d'identification. Fait que plus on met des systèmes de protection comme ça, plus ça devient compliqué. Mais ce qui est important, moi, je pense, c'est que actuellement, ces erreurs-là ont été identifiées, s'ajustent rapidement et ne me remettent pas en cause, je vous dirais, le calendrier. Parce que quand les gens, on a dit, vous pouvez devancer à 8 semaines, là, moi, personnellement, je vais choisir 12 semaines parce que je considère que c'est là que c'est le maximum. Le 8, c'est très bien aussi, là. Ça dépend du risque, etc. Mais c'est pas parce que vous allez avoir le rendez-vous une semaine plus tard ou deux semaines plus tard, particulièrement actuellement où ça circule pas, que ça va vous mettre en péril de façon significative. Fait que, oui, ça me dérange. C'est plus fatigant parce que, en plus, des fois, il y a des bugs électroniques, des gens que ça marche pas. Oui. Mais l'équipe travaille, je vous dis, les gens travaillent 24/7 là-dessus, là, pour être capable de corriger tous ces bugs-là.
Pour les jeunes de 18 à 30 quelques années qui vont pas se faire vacciner, c'est quoi la solution, Dr Arruda, pour les convaincre d'aller recevoir leur vaccin?
Ben, moi, je pense que ça, c'est beaucoup, beaucoup aussi par des gens qui sont significatifs pour eux. Donc, des campagnes de communication avec des influenceurs de leur milieu. Il faut comprendre aussi souvent chez les jeunes, c'est pas nécessairement qu'ils sont contre, c'est plus une question de prendre le temps de s'organiser. Donc, des approches où on va aller les rejoindre là où ils sont, comme tels. Et, utiliser les pères, la famille. Il y a différentes approches qui peuvent être faites. Peuvent être faits pour eux. Puis c'est un peu normal, hein. Je veux dire, je sais pas si vous comprenez, on a quand même eu une très, très bonne réponse vaccinale au Québec, dans la majorité des groupes d'âge. On savait qu'on allait avoir des plus grands défis autour de ces clientèles-là. Heureusement, nos adolescents de 12 à 17 ont très, très bien répondu. Mais le jeune adulte, ça, qui est bien occupé, qui se sent peut-être moins vulnérable que d'autres personnes, ben lui, ça lui demande un effort. Puis il faut, à ce moment-là, user de stratégies de communication, de marketing adaptées à leur réalité, mais aussi d'aller les rejoindre là où ils sont.
Écoutez, en terminant, je peux pas vous demander si vous avez si Chapelot vous a arraché un sourire avec sa caricature aujourd'hui.
Oui, je vous avoue que j'avais jamais accepté de me faire une caricature dans le Vieux-Montréal ou dans le Vieux-Québec parce que je voulais pas me voir. Je sais pas si vous comprenez. Mm. Je pense que je me fais ça fait rire. Oui, ça me fait rire. Écoutez, juste peut-être vous mentionnez quelque part, par contre, que ça, c'est vraiment vrai. On nous a demandé de voir qu'est-ce qui était possible en termes d'augmentation. Et les demandes initiales n'étaient pas, à mon avis, acceptables, à mon avis. Puis on avait une logique qui était autour des îlots de 250 personnes. Oui. Le Centre Bell pouvait en accueillir 14, pas plus. Et c'est comme ça qu'on a fixé notre chiffre. Yeah. Ça a été des discussions intéressantes.
La caricature vous montre, disons, un peu amoché à côté de François Legault qui dit, après une saine discussion et de commun accord, on va augmenter 1000 personnes de plus au Centre Bell. Mais écoutez, ça a dû vous placer dans une position difficile quand votre patron, M. Legault, a dit qu'il voulait que l'aréna soit à peu près remplie, là.
Ah, c'est sûr, mais vous savez, moi, il le sait, M. Legault, là. J'ai toujours dit que je ferais mes recommandations dans une perspective la plus scientifique, mais des fois, la science n'est pas là, là. C'est juste une question de gestion du risque. Et puis, s'il n'est pas content, il peut prendre d'autres décisions. Mais jusqu'à maintenant, comme dans ce cas-là, c'est sûr qu'il aurait préféré. Tout le monde aurait préféré un stade rempli il y a 18 000 personnes. Ou,
non, mais ce que je veux dire, Dr Arruda, c'est que quand le PM émet ce souhait-là, ça met le directeur national de la santé publique dans une position délicate, pour dire le moins. Là.
Oui, mais tout comme la population peut demander des choses, comme pour les balles, etc. Mm. Les gens voulaient. Je veux dire, le gouvernement, le PM, il est aussi le reflet de ce que la population lui demande, parce que toutes sortes de gens qui demandent des choses. Mais ça fait partie de mon rôle, et puis je pense que je suis capable de dire voici la limite avec laquelle moi je peux vivre, puis si vous voulez aller au-delà, vous y allez, si vous voulez pas, mais je pense qu'au contraire, il a écouté ce qu'on lui a recommandé, même si ça aurait été plus agréable, puis moi j'aurais été le premier à vouloir, mais vous voyez même, certains trouvent que c'est trop, hein, voyez-vous, vous savez, dans la société, là, ces éléments-là, puis c'est toute la question des comparaisons, hein, entre un secteur et l'autre, pourquoi lui, pourquoi pas nous, là. Bon, en espérant que ça porte fruit dans les victoires du Canadien.
On se croise les doigts. Merci beaucoup, Dr Arruda.
Au revoir.
On va aller à Rimouski. Il y a une affaire judiciaire qui retient l'attention dans ce coin-là, mais ça a une portée, je vous dirais, là, beaucoup plus générale, parce qu'il s'agit d'un crime de plus en plus en vogue, selon ma collègue journaliste Marie-Claude Malbeuf, qui suit ce dossier-là pour la presse. Ce sont des gens qui installent des caméras miniatures pour espionner d'autres personnes dans des positions intimes. Le classique, c'est dans des salles de bain, par exemple, de bureaux. Mais il y a des esprits encore plus tordus qui installent des caméras dans les gens, dans les maisons des personnes. Et c'est ce qui s'est passé à Rimouski dans le cas de Vincent Bernard Couture, qui vient d'être condamné à 5 mois de prison. On en parle immédiatement avec la procureure de la Couronne au dossier, Maître Isabelle Gavioli. Maître Gavioli, bonjour.
Bonjour.
Résumez-nous, s'il vous plaît, pour commencer, ce que Vincent Bernard Couture était accusé d'avoir fait.
Donc, ce que M. Couture était accusé d'avoir fait, premièrement, M. Couture se trouvait être un ami de la victime. Donc, c'était deux couples d'amis là qui se voisinaient, si on peut dire. Et M. Couture qui avait la clé de la maison, parce que cette clé-là lui avait été remise par la victime pour qu'il puisse aller chez elle arroser ses plantes, par exemple, en son absence. Donc, durant l'absence du couple, il s'est introduit dans leur maison. Il est allé placer un faux détecteur de fumée qui cachait en réalité une caméra dans leur salle de bain. Il est quitté par après. Donc ensuite, là, le faux détecteur de fumée, la caméra a capturé des images, notamment des images de la victime nue. Et quelques jours plus tard, M. Couture s'est de nouveau introduit par effraction dans la maison pour aller récupérer le faux détecteur de fumée. À ce moment-là, il a téléchargé les images qui avaient été capturées et il a changé le détecteur de fumée d'endroit. Donc, il est passé de la salle de bain à la chambre des maîtres. Donc, il a placé le faux détecteur au-dessus du lit de la chambre des maîtres. Et c'est suite à ça là, que, en fait, c'est la fille de la victime qui a remarqué quelque chose d'étrange avec ce détecteur de fumée-là. Quand la victime a regardé ça un petit peu, là, elle a vu qu'il y avait un port USB dans ce faux détecteur de fumée-là. Et c'est comme ça qu'elle s'est rendue compte qu'il s'agissait en réalité d'une caméra. Sur le coup, son réflexe a été d'appeler son conjoint. Qui, lui, évidemment, là, ne sachant pas du tout qui était derrière ça, a eu le réflexe d'appeler M. Couture, puisque c'était un ami de la famille, puisqu'il y avait un lien de confiance, pour que lui aille sur les lieux pour changer les serrures. La victime et son conjoint pensant à ce moment-là qu'il s'agissait peut-être de l'ancien propriétaire des lieux qui avait fait ça. Et c'est suite à ça là, que les soupçons se sont plus dirigés vers M. Couture et on a été capable d'identifier M. Couture comme étant là, le coupable, celui qui avait placé le faux détecteur de fumée puisqu'il avait un fantasme sur l'ami, sur la victime.
Écoutez, j'en perds mes mots, Maître Gavioli, à quel point c'est tordu. cette histoire-là. Comment est-ce qu'il a été coincé? Est-ce que l'enquête a montré ça? Comment est-ce qu'on a pu relier ce détecteur à M. Couture?
En fait, c'est oui, avec l'enquête policière, les policiers qui ont fait vraiment un excellent travail, qui ont été extrêmement prompts, mais c'est aussi beaucoup la victime. Parce que la victime, là, lorsque elle a vu ça, elle a vraiment fait regarder l'appareil, a été capable de le plugger, de connecter dans son ordinateur et de voir qu'il s'agissait d'une caméra. Elle a appelé les policiers qui sont venus sur les lieux à ce moment-là et qui ont regardé ça, mais qui ne voyaient pas vraiment là, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire. Fait que sur le coup, ils sont partis continuer leur enquête. Entre-temps, M. Couture vient sur les lieux à la demande du conjoint de la victime, lui demande où est-ce qu'elle a trouvé ça, ce faux détecteur de fumée-là. Elle lui dit que c'est à l'étage. M. Couture monte à l'étage seul, redescend. Entre-temps, les policiers reviennent sur les lieux et le policier demande à la victime « Est-ce qu'il y a d'autres détecteurs de fumée dans votre maison? » Et la victime dit « Oui, il y a un autre détecteur dans la chambre de ma fille. » Et donc, les deux vont monter à l'étage pour récupérer, vérifier si les autres détecteurs de fumée sont réels ou si c'est d'autres faux détecteurs de fumée. Et ils se rendent compte à ce moment-là qu'il n'y en a plus. Donc, la déduction, c'est que la seule personne qui était montée entre-temps, c'était M. Couture. Et c'est comme ça, donc, que les soupçons se sont dirigés vers M. Couture. À ce moment-là, les policiers, très rapidement, ont été à la maison de M. Couture, ont gelé la place, comme on peut dire, ont été chercher un mandat de perquisition. Suite à ça, il y a une fouille qui a été faite, les ordinateurs ont été saisis, les disques durs ont été saisis. M. Couture a éventuellement collaboré avec les policiers et leur a dit qu'il avait enlevé les autres détecteurs de fumée et les avait cachés sous son cabanon, derrière sa maison. Les autres détecteurs de fumée étaient des vrais détecteurs de fumée. Ce n'étaient pas d'autres caméras. M. Couture, lors des représentations sur sentence, ne pouvait pas expliquer pourquoi il avait été chercher les autres détecteurs de fumée, mais c'est ce qui a permis là, de l'identifier rapidement et d'aller chercher la preuve avant qu'elle ne soit détruite là, de quelque manière que ce soit.
Ça ressemble à un gars qui a paniqué et qui a enlevé tous les détecteurs de fumée. S'il n'avait pas fait ça, ça aurait été plus compliqué pour la police.
Ça aurait été extrêmement compliqué. Ça aurait pu également être un crime qui est impuni. La victime, là, n'était pas propriétaire de cette maison-là depuis si longtemps que ça. Donc là, les personnes qui auraient pu être suspectes auraient été plusieurs. Ça aurait pu être l'ancien propriétaire, ça aurait pu être des gens qui seraient rentrés dans la maison. Il aurait fallu faire la liste de tous les gens qui avaient des clés également pour cette maison-là. Donc, vraiment, ça a été bien mené par la police, mais aussi par la victime qui a été extrêmement vigilante et qui a fait là les mesures qu'elle devait prendre quand elle s'est rendue compte qu'il y avait quelque chose qui clochait.
Quel a été l'impact sur la victime, sur cette femme qui a été filmée dans sa maison?
Les impacts ont été vraiment multiples et très graves. Vraiment, là, elle se sent, et c'est tout à fait compréhensible, qu'elle n'est même plus en sécurité dans sa propre maison. Donc, notre propre maison, qui est censée être notre château fort, l'endroit où on est à l'abri de tous les regards, où on peut être soi-même, où on se sent en sécurité, elle, ce sentiment de sécurité-là lui a été enlevé, lui a été volé par une personne en qui elle avait pleinement confiance. Donc, pour elle, c'est très difficile. Ils ont eu à poser beaucoup de nouveaux systèmes d'alarme, des caméras. Cette victime-là, lors de ses représentations sur sentence, est même venue dire que à tous les soirs, elle compose déjà le 911 dans son téléphone cellulaire en prévision de quelque chose. Donc, on parle d'hypervigilance et c'est aussi la même chose pour son conjoint et sa fille qui se trouvent à être aussi des victimes collatérales de ce crime-là.
Est-ce qu'il y a eu un procès?
Il n'y a pas eu de procès. Okay. Dans le fond, M. Couture, comme il a collaboré avec les policiers, il a aussi plaidé coupable, pas à la première occasion, mais presque à la première occasion. Et suite à ça, il y a un rapport présententiel qui a été demandé par la juge, ainsi qu'un rapport sexologique pour qu'on ait un portrait plus global de l'individu, comme la peine doit être individualisée. Et c'est ensuite sur les représentations sur sentence où là, la couronne et la défense ne s'entendaient pas. Donc, le ministère public, on a soumis les arguments à l'honorable juge Kennedy et la défense a soumis les siens. Et aujourd'hui, la juge a tranché et a donné 5 mois de prison.
Je sais que la défense ne pensait pas qu'une peine de prison était nécessaire. Pourquoi est-ce que vous, Maître Gavioli, comme procureur de la Couronne, vous étiez convaincu du contraire?
Parce que ce dossier-ci était vraiment particulier en soi. La défense a beaucoup déposé des décisions de voyeurisme, où effectivement, mais le voyeurisme se passait dans des salles de bain publiques, à l'aréna, dans des magasins ou des choses comme ça. Et ce qui était particulier dans notre dossier, c'est qu'il y avait une introduction par effraction dans une maison d'habitation. Mmh. Et pas juste une fois. Monsieur est quand même retourné une deuxième fois pour changer le système d'alarme de place. Il y avait vraiment une planification, un stratagème qui a pris du temps. Monsieur s'est jamais arrêté en cours de route. On peut pas venir dire que c'était un coup de tête, que c'était impulsif. Il y avait vraiment une orchestration de tout ça. Et donc, l'introduction par effraction, pour nous, c'était extrêmement aggravant. Le lien de confiance également. Le fait que monsieur a fait passer ses fantasmes à lui avant toute chose. Donc, il ne se souciait pas que la victime n'avait pas consenti à être vue nue. Donc, il a vraiment écouté ses bas instincts avant toute chose. Et pour nous, c'était particulièrement aggravant et ça méritait une peine d'emprisonnement pour vraiment souligner le caractère dissuasif et dénoncer ce type de crime-là.
Incroyable. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui, Maître Gavioli.
Ça me fait plaisir.
Salut, c'était Isabelle Gavioli, procureure de la Couronne, qui était au dossier dans le cas de Vincent Bernard Couture. Ça se passe à Rimouski. Ben, vous l'avez entendu, il a installé des caméras dans la maison de ses voisins pour filmer sa voisine. Et c'est un crime, semble-t-il, qui est de plus en plus courant.
Patrick Lagacé, en accéléré.
Je me tourne vers Frédéric Lemieux. Il est professeur et directeur du programme de maîtrise en renseignement à l'Université de Georgetown à Washington. On va parler du Texas et des armes à feu. Il y a un nouveau règlement là, qui entre en vigueur et même à l'échelle des États-Unis. C'est assez controversé. Professeur Lemieux, bonjour.
Bonjour.
Expliquez-nous ce qui va se passer à partir du 1er septembre au Texas.
Ben, en fait, au Texas, à partir du 1er septembre, les gens vont pouvoir s'acheter et porter des armes sans avoir besoin de permis. Donc, ce qu'on appelle le permis de port d'armes, eux, ça va être ils vont avoir un waiver, donc ils n'auront pas besoin d'avoir ça pour porter une arme en public ou pour aller au travail ou pour aller à l'épicerie, par exemple.
Donc, pas de permis, pas d'enquête, est-ce que c'est ce que je comprends? On va à l'armurerie puis on s'achète une arme et pas de questions posées?
Non, écoutez, je vais vous dire déjà que le Texas avait déjà des règles assez souples pour acheter des armes à feu. Je me souviens, il y a quelques années, j'avais été à Dallas, au Texas, et puis ils vendaient même des armes à feu au comptoir à l'aéroport, là, au comptoir d'en face où vous pouvez acheter des tickets d'avion. Donc, c'est la réalité texane. Mais par contre, je vous dirais qu'il faut rester aussi, il faut mettre ça en perspective. Hein? Il n'y a pas juste le Texas qui est un peu cow-boy avec les règles sur les armes à feu. Je vous dirais qu'en général, les États-Unis, c'est quelque chose qui touche l'ensemble des États-Unis. Puis juste pour mettre un peu en perspective ce qui se passe au Texas avec le reste des États-Unis, il faut comprendre qu'aux États-Unis, tous les États donnent le droit aux gens de porter une arme sur eux, tous les États. Par contre, les restrictions vont changer d'un État à l'autre. Par exemple, il y a une trentaine d'États qui autorisent les gens à porter une arme sans permis, mais seulement si l'arme est visible. Par exemple, vous rentrez chez Walmart avec votre fusil de chasse ou votre AR-15. D'abord que c'est visible puis que les gens peuvent vous voir avec cette arme-là, c'est possible et il n'y a pas de permis qui est demandé. Et ensuite, il y a à peu près 18 États aux États-Unis qui vous autorisent à porter une arme dissimulée sur vous, comme par exemple une arme de poing sans permis. Donc, ça vous donne une idée ici de un peu les options qui sont sur la table et où se situe le Texas un peu par rapport aux autres États. Donc, je dirais pas que c'est une anomalie pour le Texas par rapport aux autres États aux États-Unis.
Quand on dit qu'il y a, souvent on lit ça, là, le débat sur les armes à feu est relancé, il n'y a pas vraiment de débat aux États-Unis. La question est réglée, c'est la question des armes à feu, non?
Ben écoutez, je vous dirais que la majorité de l'électorat, que ce soit républicain ou démocrate, ça tourne autour de 70% ou plus. Tout le monde s'entend que ça prend un resserrement, si vous voulez, des règles autour de l'acquisition d'armes à feu.
Tout le monde, professeur Lemieux, sauf la classe politique au fédéral puis dans les États, là.
Ben oui, ben c'est ça. Et bon, ce que je vais dire va peut-être vous paraître cynique, mais c'est quand même une évidence depuis plusieurs années que les drames qui sont issus des tueries de masse, par exemple, sont en quelque part bienvenus politiquement parce qu'ils sont des outils de campagne électorale ou des outils de campagne pour la levée de fonds. On voit par exemple les gens de la droite avec les républicains qui vont se servir des événements comme ceux-là pour, par exemple, faire des levées de fonds pour dire on va protéger votre second amendement, puis on va s'assurer que les démocrates ne viendront pas vous voler vos armes à la maison, puis ils ne pourront pas vous interdire d'acheter ce que vous voulez. Mais de l'autre côté, les démocrates, eux, ils sont bien servis par ça parce que ça leur permet de lever des fonds pour la bataille qui va venir et qui va inclure, si vous voulez, la bataille politique qui va venir, qui va inclure, par exemple, des nouvelles réglementations pour les armes à feu. Mais on les voit jamais. Regardez, là, en ce moment, là, théoriquement, les démocrates ont le contrôle du Sénat et puis de la Chambre des représentants puis de la Maison-Blanche. Est-ce que vous voyez un projet de loi en ce moment sur les armes à feu? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que ça sert les deux groupes. Ça leur permet politiquement de réunir leur base, de s'affirmer politiquement, mais aussi de faire des levées de fonds. C'est cynique, mais c'est ça quand même.
Merci, professeur Lemieux. Toujours un plaisir de vous parler de la culture des armes dans votre pays d'adoption. Salut.
Merci, au revoir.
Salut, c'était Frédéric Lemieux, professeur et directeur du programme de maîtrise en renseignement à l'Université Georgetown à Washington.
Patrick Lagacé, en accéléré.
On va parler avec Mia Dansereau. Ligue Tenberg, elle est agricultrice, historienne, auteure du livre Les remèdes de grand-mère au Québec. On va retenir Mme Beauchamp qui est très intéressée par cette question-là. Mme Ligue Tenberg, bonsoir.
Bonsoir.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de ce livre-là?
Je dirais, moi, en fait, j'ai fait ma maîtrise. C'est un livre qui est issu de ma maîtrise. J'ai fait des recherches dans le cadre de ma maîtrise en histoire sur les remèdes de grand-mère au début du 20e siècle. Puis, c'était tellement du peu vu dans la littérature historique et également extrêmement intéressant au niveau des souvenirs pour tout le monde, je pense. Que ça me donnait le goût de publier.
Ce qui vous a intéressé, est-ce que c'est la portée sociologique de tout ça, le rapport aux médecins, à la médecine qui était à l'époque très dispendieuse, ou est-ce que c'est la véracité, l'efficacité réelle de ces médicaments-là?
C'est beaucoup plus la portée sociologique qui m'a intéressée à ce moment-là, parce que au final, les remèdes de grand-mère, qu'est-ce que ça représente? Qu'est-ce que c'est? C'est le besoin pour les familles québécoises à cette époque-là de s'organiser avec les moyens du bord, finalement, parce que l'accès au médecin était parfois extrêmement, juste au niveau géographique, très difficile, mais au niveau monétaire, pour la très, très vaste majorité des Québécois, c'était impensable d'aller consulter le médecin. J'ai même vu dans une revue à un moment que dans la case, il faisait un petit budget là, pour les familles. Puis les soins de santé rentraient dans la case budgétaire de villégiature, divertissement et vacances. Donc, on peut s'imaginer que c'était peu accessible pour beaucoup de monde.
Pour le commun des mortels.
Exactement.
Mia, c'est votre maman, entre autres, qui vous a transmis beaucoup de ses recettes. Votre maman était un petit peu granole, comme vous l'avez mentionné.
Oui, exactement. Mais dans le fond... Quand on était petit, elle nous faisait, tu sais, justement une petite tisane au miel quand on avait mal à la gorge, un petit baume de plantes quand on avait des petites blessures d'enfant sur la peau. Puis donc ça a comme toujours fait un peu partie de mon univers là, d'utiliser les plantes à des fins médicinales. Puis c'est dans cette optique-là aussi que j'ai entrepris ma maîtrise. Là. Je me disais bon, j'ai un sujet pendant 2 ans. Faut que je m'y intéresse pour vrai et longtemps.
Est-ce que ça marche, ces trucs-là? Tous les trucs du livre, est-ce qu'ils fonctionnent?
Oh, définitivement pas. Je vous dirais que c'est pas un secret de recette du tout. Mais il y en a qui fonctionnent, il y en a qui fonctionnent définitivement pas. Par exemple, il y en a un qui est la reine des prés, qui est une plante qu'on trouve ici au Québec, là, dans les champs et bordures de chemin. C'est prouvé que maintenant qu'elle contient de l'acide salicylique, qui est la molécule qu'on utilise dans l'aspirine. Donc, puis elle était utilisée à l'époque pour les maux de tête. Donc, ça fait du sens.
Est-ce que vous avez découvert comment ces remèdes de grand-mère ont été découverts? Parce que on peut rire de certains remèdes de grand-mère, mais là, vous voulez me le dire avec ce nom de plante que je ne pourrais pas répéter, là, que des fois, ça fonctionne, il y a une fondation.
Je pense que c'est beaucoup... dans le fond, par essai-erreur que les gens finissait par trouver des remèdes. C'est beaucoup d'empirisme, finalement, au cours de sur des milliers d'années d'humanité. Là, on retrouve même dans les livres certains remèdes qui semblent, et façon de réfléchir à la maladie qui semble dater de la Grèce antique. Là, donc,
Le miel revient vraiment souvent là, dans les recettes. C'est pas mal la base en médecine naturelle.
Oui, ça semble revenir vraiment souvent. Puis de plus en plus aujourd'hui, on tend à montrer que le miel a des vertus antiseptiques sur les blessures ou est à peu près aussi efficace là, qu'un sirop pour la toux chez les jeunes enfants. Là. Une cuillerée de miel, c'est au moins aussi efficace que ce qui est vendu en pharmacie.
Parlez-nous du... On appelle ça un remède de grand-mère, mais ça dit quelque chose sur le rôle à l'époque de la mère, de la grand-mère, comme responsable de la santé du foyer.
Oui, bien, à l'époque, c'était définitivement, ça faisait partie du rôle féminin là, de s'occuper des membres de la famille, que ce soit au niveau faire le ménage, faire la cuisine, habiller les enfants. Puis on oublie souvent que c'était aussi prendre soin au niveau de la maladie de tout le monde du milieu familial. Puis, donc, c'était vraiment des savoirs féminins, cette transmission-là. Donc, c'est pour ça que souvent, on appelle ça remède de grand-mère, parce que c'était la grand-mère qui passait ce savoir-là à sa fille, à sa petite-fille, à ses voisines. Mais c'était définitivement une responsabilité féminine. Puis, c'était aussi de leur responsabilité non seulement de diagnostiquer la maladie chez leur enfant, décider d'un remède, l'appliquer, mais aussi à savoir quand est-ce qu'on fait appel au médecin, quand est-ce qu'on fait appel à un charlatan, quand est-ce qu'on va voir à l'extérieur du cadre familial pour continuer à soigner.
Est-ce que ça peut être dangereux, un remède de grand-mère?
Oui, il y a des remèdes de grand-mère qu'il ne faut pas essayer du tout. Là. Il y en a qui vont... Par exemple, la fameuse mouche de moutarde, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose dans votre imaginaire.
On en a parlé, mais expliquez aux gens c'est quoi avant de nous dire pourquoi c'est pas une bonne idée.
En fait, une mouche de moutarde, c'est de prendre de la moutarde en poudre. Donc, vraiment l'épice 100% pure. Mettre un peu d'eau. Mettre ça entre deux cotons fromage, puis l'appliquer sur le torse lorsqu'il y a, par exemple, une toux. Mais ça peut être extrêmement irritant pour la peau. Donc, chez les jeunes enfants particulièrement, là, il y a déjà eu des cas de brûlure un peu là, par la moutarde sur la peau. Donc, à ne pas essayer.
Je viens de voir le fleur de sureau. Moi, j'ai un sureau dans la cour chez moi. Est-ce que vous me conseillez de faire un thé avec des fleurs pour... ça règle la mauvaise haleine et ça aide pour la peau aussi.
Oui, ça, la fleur de sureau, il n'y a aucun danger avec ça. Donc, vous pouvez vous faire des tisanes autant que vous voulez.
Okay.
Après ça, de l'efficacité, bon, c'est toujours... Il y a peu d'études scientifiques sur l'efficacité de chacune des plantes qu'utilisaient les remèdes de grand-mère. Là, c'est assez peu courant, en fait, les études sur les plantes, bien que de plus en plus on les utilise comme base, par exemple dans les pharmaceutiques pour essayer d'isoler des molécules. Mais fleur de sureau, il n'y a aucun problème. Puis il paraîtrait aussi qu'en cas de petit rhume, ça fait du bien. Après ça, est-ce que c'est l'eau chaude et le temps qu'on a pris pour faire notre tisane ou le sureau, je ne pourrais pas vous le confirmer, mais...
Dites-moi, Mia, dans votre cas, votre remède de grand-mère que vous utilisez couramment, c'est lequel?
Moi, j'utilise couramment la fleur de calendule qui est macérée dans une huile parce que c'est vraiment, ça aide la peau à guérir plus vite. Puis bon, comme vous avez mentionné, je suis agricultrice. J'avoue que j'ai les mains et les bras toujours un peu pleins de petites blessures. Puis j'ai une fille de 2 ans, donc elle aussi, là, le petit bouton qui sort d'on ne sait où arrive assez souvent. Donc ça aide la peau à guérir plus vite. Donc ça, c'est un remède assurément dans ma pharmacie, puis aucun danger avec cette fleur.
Donc dans ce cas-là, c'est un remède de grand-mère qui fonctionne?
Ben, en tout cas, c'est pas prouvé scientifiquement encore une fois, mais moi je trouve que ça fait une différence entre ne rien mettre et mettre là.
Je suis sûre que ça fonctionne plus que placer un clou de girofle contre la dent douloureuse. C'est un mal aux dents.
En fait, ça, réellement, ça fonctionne parce que le clou de girofle, c'est prouvé légèrement anesthésiant. Évidemment, ça ne va pas régler le fond du problème, à savoir qu'il y a une carie ou un problème dentaire, mais Le clou de girofle est en soi légèrement anesthésiant, donc ça pouvait aider pour la douleur.
OK, ben moi, je m'en allais dire, aller voir un dentiste, ça va être plus efficace que le clou de girofle.
Effectivement, parce que lui, au moins, il va régler le problème de fond.
Est-ce qu'il y en a un qui est vraiment original, là, qui sort des... tu sais, que vous-même, vous avez été épaté de voir comme truc de grand-mère?
Ben moi, celui qui m'a le plus surprise, je dirais, ça doit être... le tonique pour les poumons là, que j'ai revu à plusieurs fois au courant de ma lecture de la presse de l'époque. C'est toujours la même recette qui revenait d'ailleurs. C'est de prendre une douzaine d'œufs, percer les coquilles, mettre ça dans un bol avec du citron, laisser sur le comptoir 3 jours, écraser ensuite avec coquilles, jus de citron, etc., là, la totale.
Oui.
Rajouter de l'huile de foie de morue, du brandy et du miel. Prendre une bonne cuillerée à jeun le matin pour fortifier les poumons.
Wow.
Donc, celui-là, je ne conseillerais à personne.
Est-ce qu'il y a un pneumologue dans la salle pour nous éclairer?
Oui, c'est...
c'est incroyable. Puis, il y a une cure de migraine. Là. Écoute, c'est tellement drôle, la photo. C'est écrit « Tremper un linge dans un vinaigre et appliquer sur la tête et maintenez-le saturé. » Mais tu sais, l'image, c'est une... une dame avec un pot de vinaigre sur la tête. Je pense pas que ça règle nécessairement les migraines.
Non, des fois, c'est juste l'odeur forte du vinaigre. Peut-être que ça faisait un certain effet, mais effectivement, le vinaigre en soi, là, pour une migraine, je pense pas que ça soit d'une très grande efficacité.
Hey, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est fort divertissant et instructif.
Merci beaucoup.
Salut, c'était l'historienne et agricultrice Mia Dansereau. Ligtenberg, elle nous arrive avec un livre qui s'intitule « Remèdes de grand-mère ». Les remèdes de grand-mère au Québec. Catherine Beauchamp a beaucoup aimé ce livre-là.
Écoute, juste avoir la couverture, j'aurais l'impression que ça sent le pot pourri.
Ça sent le miel.
Ouais, mais finalement, ça sent la page de carton.
Patrick Lagacé en accéléré.
C'est 23.